France Culture.
Jean-François Corti, bonjour.
Bonjour.
C'est le quatrième épisode de Nos à voix nues. On va parler, pour ce quatrième temps, de santé, d'inégalité, d'accès aux soins, en particulier pour les populations précaires en France. En partant, toujours du terrain, parce que c'est la base de tout pour vous, on a bien compris, en partant de ce que vous avez fait en 2012 quand vous étiez directeur des opérations France à Médecins du Monde, vous vous êtes occupé de la création d'un centre de soins et de santé au cœur de déserts médicaux, en l'occurrence, parce que c'était très précis, à Saint-Éloi-les-Mines en Auvergne. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment les choses se sont passées, comment vous en êtes venu à vous occuper d'un centre de soins en Auvergne ?
Ce sujet nous intéresse parce qu'il est aussi au cœur d'injustices, d'inégalités qui aujourd'hui se traduisent dans différents travaux sociologiques par des populations qui se sentent déclassées, délaissées du droit commun, délaissées de la République, sur différents territoires, que ce soit des zones périurbaines, que ce soit des zones rurales, que ce soit aussi dans certaines villes. Et en fait, l'idée à l'époque que je porte avec d'autres, et encore une fois, c'est toujours un exercice collectif, hein, même si je me retrouve en situation d'un certain leadership sur ma position de directeur, j'ai des relais de médecins, de bénévoles de la région de Clermont-Ferrand qui nous interpellent en disant voilà, nous, en milieu rural, l'accès aux soins n'est pas facile pour tout un pan de la population qui va des personnes âgées qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer un taxi pour aller en consultation cardiologique à 50 km de chez eux, qu'il y a dans le monde agricole, des mortalités qui sont absolument hallucinantes. La troisième cause de mortalité chez les agriculteurs, c'est le suicide. Il y a une très grande précarité dans le monde agricole et tous les agriculteurs ne sont pas propriétaires de milliers d'hectares, ne sont pas tous au sommet de syndicats agricoles à défendre des intérêts qui sont discutables. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui commencent le mois avec zéro sur leur compte en banque et qui sont dans la précarité et qui, de notre point de vue, méritent aussi qu'on s'intéresse à eux parce qu'il y a des injustices. Et donc, moi, perso, j'ai mon histoire qu'on a évoquée ensemble aussi. J'ai grandi en ruralité. J'ai une tante qui m'est proche, tante par alliance, qui meurt d'ailleurs très jeune d'un cancer à 36 ans, qui est issue d'une famille d'agriculteurs chez qui j'ai pu aller et à qui j'ai pu vivre des séquences de vie où les toilettes sont au fond du jardin, où on est rythmé par le jour et la nuit, par les exigences que les bêtes, les vaches, les chèvres et autres imposent sur le rythme de vie. Je sais combien cette vie est difficile pour des agriculteurs qui ne prennent jamais de vacances, qui sont épuisés et qui ont été pris au piège par des politiques, agricoles intensives, où on leur a demandé de faire des emprunts et que c'est difficile pour eux d'arriver à la fin du mois en touchant les deux bouts. Donc, je suis sensible à cette question. Donc, j'accompagne la dynamique dans la MDM et on démarre un programme donc en zone rurale à Saint-Éloi-les-Mines avec des acteurs locaux, sachant que il y a d'autres organisations. Secours catholique, il y a aussi les Restos du Cœur, d'autres organisations, on va dire, qui sont investies dans la lutte contre la précarité, occupent déjà ces espaces ruraux. Et l'idée, c'était pas forcément l'entrée sur la question du désert sanitaire en tant que tel, parce que des déserts médicaux, il y en a aussi dans les grandes villes où vous avez des médecins qui sont en secteur 2, par exemple, qui imposent des dépassements d'honoraires, qui refusent des patients CMU ou aide médicale d'État, ou des spécialités ophtalmo ou autres, où il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir des rendez-vous. Et donc, l'enjeu, c'était d'être sur une approche territoriale aussi, en ruralité, pour être au contact d'un nouveau type de population qu'on a. Nous, on n'avait pas forcément l'habitude de voir ces fameux déclassés, ces Français et déclassés, pour pouvoir les aider, comprendre pourquoi ils ont des difficultés d'accès aux soins, quelles sont les formes de précarité sur lesquelles on peut être utile, pour ensuite aussi faire notre travail, qui est celui du plaidoyer, de rentrer dans le champ du politique, pour être force de proposition, et pour montrer à la puissance publique, pour montrer à nos concitoyens, que nos organisations s'intéressent aussi à ce qui se passe en France, et qu'on peut très bien, sans opposer les précarités, avoir une indignation, une sensibilité, de l'empathie pour des exilés précaires qui fuient leur pays à cause de la guerre, la précarité, et qu'on doit pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, mais qu'on est aussi sensible à la précarité des Français qui se sentent légitimement délaissés par la puissance publique qui a désinvesti certains espaces, dont la ruralité. Et ça, si on prolonge la réflexion dans notre idée de ce qu'est la liberté, la démocratie, évidemment, ça vient brutalement se confronter à des acteurs politiques qui instrumentalisent la précarité en opposant les précarités, en expliquant, par exemple, que soigner des migrants précaires, c'est ça qui déstabilise notre système de santé et qui fait que des Français précaires ne peuvent pas soigner. Et donc, en étant sur cette problématique-là, en étant au plus proche des Français précaires, on se met dans une situation de concurrencer les discours politiques de ceux, notamment de l'extrême droite, de ceux qui véhiculent des idées d'extrême droite, qui surfent sur ces précarités, qui les instrumentalisent pour, au fond, défendre une politique suprémaciste, souvent ultralibérale, et qui ne va pas du tout dans le sens de la démocratie sanitaire que nous défendons.
À quel moment vous vous retirez ? Est-ce que vous vous retirez quand vous considérez que les politiques publiques doivent prendre le relais ? Parce que j'ai compris le discours qui est le vôtre, que vous portez, que vous habitez même. Mais dans l'action.
Mais qu'on soit dans une zone de conflit, sur une urgence absolue, après un tremblement de terre ou un tsunami, qu'on soit sur un programme en lien avec la tuberculose ou le VIH, ou une épidémie type Ebola, il se pose toujours la question de savoir comment on arrive. Alors, on l'a expliqué, sans être les French doctors cow-boys qui expliquent la vie à tout le monde. Donc, il y a une sensibilité aux dynamiques locales. D'ailleurs, il faut se le dire, sur les urgences absolues, comme les tremblements de terre ou autres, c'est d'abord les locaux qui sauvent des vies. Et ensuite, c'est l'aide internationale qui arrive, qui est utile, mais qui arrive en seconde main. Les vrais héros, si on est dans cette logique que j'aime pas trop, c'est d'abord les acteurs locaux qui sauvent des vies. Donc, on est dans tous les cas dans des logiques où on se pose des questions de savoir comment on va sortir de notre opérationnalité. Et c'est jamais facile. Parce qu'on est souvent dans des contextes où la précarité est chronique, elle est multifactorielle, elle s'inscrit dans des dynamiques sociales totales. Et nous n'avons pas la vocation de se substituer à des États, d'être dans la mise en œuvre de politiques publiques à l'échelle nationale. Nous répondons soit à des urgences, soit à des problématiques d'injustice sociale où des populations sont stigmatisées parce qu'elles sont ce qu'elles sont, LGBTQI+, usagères de drogue, exilées, précaires dans certains contextes. Et le fait juste d'être précaire vous met en situation d'être méprisé par la puissance publique. Il faut comprendre que, je reviens sur le secteur France, mais il y a beaucoup de précaires, alors c'est des dynamiques sociales qu'on connaît partout, mais qui ne se soignent pas parce que on leur a tellement expliqué que c'était des parasites potentiellement de la société, et je parle bien de Français précaires, on leur a tellement expliqué que quand vous étiez pauvre, vous étiez des losers, qu'on a des patients qui arrivent tardivement en consultation, même avec des pathologies chroniques type cancer, parce qu'ils se sentent pas légitimes de venir demander une aide au système de santé. Et donc, nous, on est dans une situation où on travaille aussi contre ces représentations et on crée les conditions pour qu'il y ait une forme d'universalisme dans l'accès aux soins pour tous. Donc oui, on sait jamais quand on va partir, mais on réfléchit toujours dans les objectifs généraux qu'on met en place à des portes de sortie, et ça passe par créer des associations locales, renforcer des associations existantes, créer les conditions pour qu'il reste une trace du combat qu'on a mené avec les acteurs locaux, quand bien même on serait parti, et ça arrive bien souvent qu'il y a un cycle de projet. On démarre, on conduit un projet et on le termine en passant la main.
Pour revenir, Jean-François Corti, à ces expériences d'accès aux soins pour des personnes qui n'y ont pas accès, et en particulier dans des zones rurales, l'expérience de Saint-Éloi-les-Mines n'a pas été la seule, elle a peut-être été la première avec Médecins du Monde. Il y en a eu d'autres, des opérations du même type à partir de 2016. Je crois que Médecins du Monde est intervenu dans la Haute-Vallée de l'Aude. Est-ce que ces expériences ont, maintenant, ça fait plus de 10 ans que vous les avez mises en place, ont donné leurs fruits au sens où est-ce que vous avez, vous, réussi à mettre en place ces centres de soins et de façon pérenne? Et est-ce que, d'une certaine façon, vous avez aussi poussé ou réussi à faire en sorte que les politiques interviennent là où elles n'intervenaient pas?
Sur Saint-Éloi-les-Mines, c'est vrai qu'on n'a pas forcément été bien accueillis par tout le monde. Il y avait de l'inquiétude des élus locaux, de certains médecins localement qui se disaient « Mon Dieu, de voir MDM dans nos campagnes, ça va renvoyer une image péjorative de nos villes, ça va faire le lien avec ce qui se passe au Darfour ailleurs. » En fait, bref, ça va pas être bien. Et en fait, en travaillant comme on le fait partout, en allant rencontrer différents acteurs, que ce soit les élus, les soignants, le monde agricole, les représentants syndicats ou autres, en expliquant qu'est-ce qu'on fait, on leur montre l'intérêt qu'ils peuvent avoir à nous avoir proches d'eux, et notamment par rapport à des problématiques qui sont celles de l'accès aux soins, la gestion de la précarité, notamment pour des petites communes et des maires qui ont énormément de difficultés à pouvoir gérer à leur niveau et qui se sentent bien seuls dans la gestion de leurs concitoyens. Parce que, ils sont démunis, en fait. Et donc, ce travail de confiance, on fait prendre conscience de l'intérêt qu'on a réciproque de travailler ensemble, ça a payé, puisque on a été bien accepté ensuite dans la Haute-Vallée de l'Aude. Et puis, on a pu créer sur une logique de médiation, des ponts entre des acteurs qui se parlaient pas forcément. On a eu des financements des agences régionales de santé. Donc, l'État nous a fait confiance aussi sur ces dispositifs innovants. Et ça fait partie un peu de notre mission sociale, d'être dans l'expertise, l'expérience, ce qu'on a fait avec les salles de consommation à moins de risque ou les salles d'échange de seringues ou les programmes méthadone substitution. On fait une démonstration rationnelle d'un dispositif qui marche et ensuite on passe la main au droit commun, donc à l'État. Et donc sur la question de la médiation, dans la Haute-Vallée de l'Aude notamment, je pense qu'on a su montrer qu'on pouvait s'intéresser à certains types de populations, à une certaine précarité qui n'est pas forcément dans le scope, on va dire, des priorités des politiques publiques, qu'on a pu faire des liens entre du monde associatif, des élus locaux, des ayants droit aussi et des concitoyens qui ont pu trouver un intérêt à notre présence. Et voilà, et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Nous, on n'est pas là pour se substituer à l'État, partout où on intervient. Mais on est dans des situations où on intervient dans les failles des systèmes. Là où on pense que l'État devrait être plus investi, on fait la démonstration qu'il y a des besoins, qu'il y a des solutions, et on passe la main. C'est pas toujours facile, évidemment. Aujourd'hui, on est très préoccupé, encore une fois, par ces personnes dites déclassées. Je pense notamment aux centaines de milliers de personnes âgées, qu'on soit en milieu rural d'ailleurs, ou qu'on soit en urbain ou périurbain, qui sont seules, qui sont sans relais de solidarité, qui sont sans mutuelle ou sans dispositif d'accès aux soins. Je pense à tous ces étudiants aussi qui n'ont pas la capacité de se payer des mutuelles. Et ce type de population nous intéresse parce que elles sont à l'image, en fait, aussi d'un détricotage des filets sociaux de notre système de santé, qui fait que la Sécu rembourse de moins en moins, que les mutuelles sont de plus en plus chères, que le reste à charge qu'on doit payer de plus en plus important. Et donc, ce que l'on constate, c'est un non-recours aux soins. Les gens ne se soignent pas, ou quand ils se soignent, c'est beaucoup trop tard. Et nous pensons que nous avons un rôle à jouer pour lutter contre ces inégalités. Et ça fait partie des intentions des prochains projets de creuser ces pistes autour de ces populations.
Comment vous, Jean-François Corti, là je m'adresse à vous en tant que soignant, en tant que médecin, comment vous avez traversé l'épidémie de Covid-19 ?
Je l'ai traversé comme tous mes concitoyens et aussi comme tout le corps soignant, avec la conviction qu'il fallait agir, et c'est ce qu'on a fait au-delà des prises de risque qui étaient nécessaires à une époque où, je vous le rappelle, lorsque l'épidémie éclate chez nous, on n'a pas de masque, on n'a pas de gants, on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement efficace, et où les soignants payent un lourd tribut aussi, en plus de la population, dans les mortalités qui sont importantes. On sait qu'il y a des vulnérabilités qui ont été mises en avant, les personnes âgées, les personnes qui avaient des maladies chroniques, notamment, ont été les premières à être victimes du Covid, mais aussi les populations précaires. Et on sait que dans certains départements, Seine-Saint-Denis ou autres, les mortalités ont été plus importantes qu'ailleurs. Moi, j'étais en situation à ce moment-là de faire de la médecine clinique. Je faisais des gardes dans une clinique et j'ai été confronté, comme beaucoup de mes collègues, déjà à la prise de risque de soigner des patients sans protection, et aussi dans une situation de faire de la médecine d'urgence, voire de la médecine de guerre, c'est-à-dire de la médecine du tri. J'ai été, comme beaucoup de mes confrères et consoeurs, dans des situations où j'avais des patients qui sont morts alors que je ne pouvais pas les transférer en réanimation parce que la réanimation faisait du tri d'entrée de patients et avait un nombre de places restreint et donc n'acceptait plus certaines catégories de patients qui en temps normal étaient acceptées. Je pense à des patients qui avaient un certain âge avec certaines maladies chroniques. Et c'était, je dirais, normal, entre guillemets, on aurait tous fait la même chose, c'est-à-dire de garder des places pour des patients qui avaient le plus de chances de risque de s'en sortir par rapport à d'autres dans un contexte de limitation des capacités de réponse. Donc on a fait, et il faut que la plupart de nos concitoyens le savent, on a fait de la médecine d'urgence et de la médecine et du tri, de la médecine de tri en France, y compris dans notre dans un pays riche comme le nôtre, dans le contexte du Covid, ce qui moi m'a amené non seulement à être dans une pratique clinique où j'ai fait du palliatif comme jamais dans ma vie, où j'ai aussi été à ce moment-là dans des prises de parole, pas au nom d'MDM mais au nom d'un acteur engagé dans la lutte contre les inégalités, pour parfois accompagner, parfois critiquer certaines décisions de politique de santé du moment. J'ai été aussi assez médiatisé dans ce contexte-là parce que je parlais de mon expérience de terrain. En fait, je pouvais confronter la réalité de ce que je vivais en tant que soignant en France en la renvoyant à mes expériences d'humanitaire, de zones de guerre, de zones de conflit où je revivais un petit peu avec les mêmes réflexes, les mêmes standards qu'on s'imposait chez nous parce que la vague de Covid était tellement immense, notre système n'était tellement pas préparé à ça, qu'il fallait être dans des pratiques de médecine d'urgence qu'on n'a pas l'habitude de faire en France, mais que moi, comme d'autres, avons pratiqué dans d'autres contextes. Donc, je dirais que mon expérience d'humanitaire, d'urgentiste à l'international, m'a beaucoup aidé dans à la fois la pratique médicale, à la fois le fait de pouvoir gérer mes émotions dans un contexte de mortalité intense, mais aussi dans une capacité analytique sur les mesures à prendre et à accompagner la réflexion collective autour de ce qu'il fallait faire ou pas. Et donc, de rappeler certains standards qui sont que les décisions politiques dans un temps d'épidémie, elles doivent tenir compte des savoirs profanes, c'est-à-dire elles doivent s'appuyer aussi sur la population, des politiques publiques, et ça, on l'a vu sur des crises où moi, j'ai pu intervenir à l'international, d'épidémie de choléra ou d'épidémie de méningite ou autre, où j'ai participé à des campagnes de vaccination au Niger et ailleurs. Si vous n'avez pas la confiance de la population dans les politiques et les élus qui mènent les décisions politiques en temps de crise, eh bien, ça marche pas. Donc, c'était important de rappeler chez nous que on n'attendait pas forcément tout de l'État avec une vision très descendante, très jacobine de la gestion de la santé publique en temps de crise, où de surcroît, on n'avait pas assez de masques, ou on n'avait pas assez de gants, on n'avait rien. Il fallait aussi donner la possibilité à nos concitoyens d'être dans des initiatives. Et combien, moi, ma mère, elle a cousu des masques, comme beaucoup de personnes se sont mobilisées pour coudre des masques, en regardant des tutos sur Internet. Il y a eu des chaînes de mobilisation qui se sont faites pour pouvoir compenser les insuffisances de notre système de santé, notamment en matière de prévention. Et ça, c'est important. Ça renvoie à la réflexion qu'on a eue sur l'accueil des migrants autour de la France qui accueille, où je rappelais que on ne doit pas forcément attendre tout de l'État dans des mobilisations citoyennes autour notamment de l'accueil des migrants. Alors le problème chez nous, c'est que l'État met aussi des bâtons dans les roues dans les initiatives de nos concitoyens. Mais dans le cadre du Covid, on a vu comme c'était important aussi de faire en sorte que la société civile à différents niveaux prenne sa part dans la lutte contre l'épidémie et qu'elle soit intégrée dans des choix stratégiques de politique publique. Et ça s'appelle la démocratie sanitaire.
Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui fait le lien d'ailleurs avec le troisième sujet que je voulais aborder dans cet épisode, Jean-François Corti. C'est effectivement la place de la société civile. Société civile d'un côté et science de l'autre. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure à quel point aussi il faut écouter la science. Et vous avez réuni ces deux acteurs, j'ai envie de dire, dans un film que vous avez vous-même coordonné, réalisé en 2024. Il a été diffusé sur France Télé. Ce film s'intitule « Contrepoison, un combat citoyen ». Et vous suivez, alors là, vous ne le suivez pas en tant qu'humanitaire, vous le suivez en tant que vous-même, et vous allez nous dire dans quelle position vous vous êtes mis pour faire ce film. Mais vous suivez un collectif qui alerte sur les dangers d'une pollution environnementale dans une commune près de Nantes. Pour le dire clairement, il est fait état d'un cluster de cancer chez des enfants sur une commune de Loire-Atlantique depuis 2015. Vous allez suivre le collectif de citoyens, de parents qui se montrent, aidés qu'ils sont de deux scientifiques. Vous nous racontez la genèse de ce film ?
Absolument, c'est une, je trouve une belle histoire parce que j'ai découvert beaucoup d'amis, beaucoup d'engagement, même si le sujet cancer pédiatrique est un sujet douloureux. J'ai rencontré Laurent Suc, qui est une toxicologue qui est spécialisée sur le stress cellulaire, c'est-à-dire qu'elle étudie les mécanismes de transformation des cellules normales en cellules cancéreuses sous l'effet d'exposomes. Les exposomes, c'est des toxiques, des polluants. Et elle travaille dans un laboratoire, mais elle est extrêmement sollicitée par des familles qui l'appellent pour des conseils, pour savoir comment gérer des situations où, à l'échelle d'un territoire, il y a des cancers qui apparaissent et les familles sont souvent démunies par rapport à ça, sans comprendre pourquoi leurs enfants tombe malade. Je faisais partie de l'association à l'ère des médecins sur les pesticides à cette époque et j'ai beaucoup appris sur les questions de santé environnementale et notamment sur les cancers pédiatriques où on sait que 90% de ces cancers sont liés à des exposomes, donc à des toxiques environnementaux. Ce n'est que 10% de ces cancers pédiatriques qui sont liés à des facteurs génétiques. Ça veut dire que c'est pas normal aujourd'hui d'avoir 2500 enfants qui tombent malades et plus de 500 qui meurent chaque année de cancers pédiatriques. Pédiatrique, je ne parle même pas des adultes jeunes et des autres. Aujourd'hui, on est dans une épidémie de cancer. On a doublé le nombre de cancers depuis ces 20 dernières années. Donc, Laurence Huc m'appelle en me disant, voilà, moi, je travaille sur... J'appuie ces familles à Sainte-Pazanne, sur la commune de Sainte-Pazanne, et j'ai vraiment envie de les aider pour que ça se sache ce qui se passe là-bas. Entre 2015 et 2020, il y a plus de 25 enfants qui tombent malades, il y en a 7 qui sont morts, il y a un enfant qui tombe malade tous les 6 mois, on est largement au-delà des seuils épidémiologiques normaux. Donc voilà, comment on peut les aider? Moi, je viens de finir la BD, j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça, par hasard, Valérie Gaillard, qui est un réalisateur, on a sympathisé, je l'appelle, je lui dis, écoute, il y a ce projet, t'en penses quoi? Je trouve que ça serait bien de faire un film, j'ai envie de travailler sur ce support-là, toujours avec cette idée d'un ascenseur émotionnel grâce aux images, grâce à la musique, pour traiter d'un sujet qui est en l'occurrence les cancers pédiatriques et toute cette injustice. Moi, c'est vraiment une injustice que vivent ces familles et ces enfants. Il me dit, banco, on y va. Et donc, avec Laurent Suc, avec Valérie Gaillard, avec aussi la maison, la boîte de production Squo, qui est l'idée par Juliette Grignon et Patrick Vinocourt. C'est très important d'avoir une bonne boîte de production pour faire des films. Et je les cite, c'est pour ça, parce qu'ils nous ont vraiment accompagnés. Et pour moi, c'est aussi grâce à eux qu'on a pu faire ce film. Et grâce aussi au montage et au monteur Paul qui nous a aidés. On va sur le terrain et donc on accompagne ces familles. D'abord, je suis sensibilisé à la question des cancers. Je vous l'ai évoqué, je perds mon père qui a 56 ans d'un cancer et en 9 mois il part. Donc ça a été un choc brutal dans notre famille. Moi j'ai arrêté mon internat pour l'accompagner, vivre au quotidien les derniers instants de sa vie parce que le temps était compté. Hein. C'est des moments dans la vie qui vous marquent, hein, où vous avez un rapport au temps qui est particulier quand vous savez qu'un être proche va disparaître parce qu'il y a un diagnostic qui est posé. Ça m'a quand même profondément marqué. J'ai perdu ma tante à 36 ans aussi d'un cancer assez foudroyant. Et donc, voilà, je suis pris dans la connaissance aussi de ce qui se passe en ruralité, et puis surtout du fait qu'on explique à ces familles qu'en fait... Bon, c'est la faute, t'as pas de chance, circuler, il n'y a rien à voir.
Les autorités font la sourde oreille.
Vos enfants sont malades, et puis c'est comme ça. Sauf que les familles, elles disent non, c'est pas possible. Nous, les familles, on veut pas forcément pénaliser quelqu'un, on veut juste que ça ne se reproduise pas. Et on veut éviter que d'autres enfants tombent malades, parce que, voilà, d'abord, il y a des morts, et puis quand vous avez, même si vous n'êtes pas mort, vous avez quand même, après avoir mangé, si je peux me permettre, plusieurs années de chimio, une espérance de vie qui est quand même moins importante, avec des insuffisances rénales, cardiaques ou autres, qui font que votre vie, elle n'est pas aussi cool que si vous n'avez pas eu de chimio. Donc, il y a une injustice majeure, et puis il y a la puissance publique qui n'est pas au rendez-vous, surtout. Et donc, moi, je voulais, dans l'esprit de la France qui accueille, de ses mobilisations citoyennes, pouvoir montrer comment cette société civile se prend en main. Et c'est ça, la démocratie sanitaire. C'est faire confiance à l'État, mais c'est aussi que l'État laisse les sociétés civiles se mobiliser. Et là, j'ai accompagné ces familles avec Valérie Gaillard, et on a pu montrer leur travail, leur investissement dans un contexte, où il y a un manque de données, où la puissance publique ne met pas tout en avant de notre point de vue pour pouvoir bien documenter ce qui se passe sur les terrains du cancer. Pourquoi je dis ça ? Parce que aujourd'hui, c'est pas l'Agence régionale de santé ou Santé publique France qui met en évidence les clusters. C'est des familles qui sont confrontées à la maladie. Comment ça s'est passé à Sainte-Pazanne, si je peux vous en dire deux mots? C'est parce que Marie Thibault, la maman qui a créé le collectif Stop au cancer de malade, elle s'est retrouvée aux urgences avec son gamin malade, et puis elle a croisé sa voisine qui était là avec son gamin malade. Et c'est ces familles qui se sont rendues compte qu'il y avait un problème sur leur territoire et qui ont alerté les autorités. C'est pas l'inverse qui s'est passé.
Et puis, ce que vous montrez dans le film, c'est que les recherches scientifiques associées à une forme d'organisation solidaire citoyenne ont abouti à la création d'un institut en 2023, un institut chargé d'alerter les politiques. Et ça, c'est une belle expérience de ce que vous appelez science participative, et ça rejoint vraiment toutes vos préoccupations.
Oui, d'abord, le film, il montre cette mobilisation citoyenne, le fait que les chercheurs aussi sont dans une situation difficile que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'ils sont méprisés. On y a une forme de déni de la science aujourd'hui, et on le revit avec les histoires du glyphosate à l'échelle européenne, on le revit avec la loi Duplomb aussi, une mise en tension entre les données et la décision politique. Et donc, ce film a montré comment aussi, entre acteurs de société civile, entre chercheurs, entre élus locaux aussi, on peut avoir des leviers. Ça a été l'Institut citoyen qui a été créé à Sainte-Pazanne, sur le modèle d'autres instituts, où on n'attend pas des décisions de Paris ou de Bruxelles, où sur la base d'un problème donné sur son territoire, et là c'était les cancers pédiatriques, eh bien on trouve des solutions. Moi, ça m'a porté, je tiens à insister sur le fait que ça m'a donné beaucoup d'énergie, que j'ai pas attendu ce film pour être motivé par le combat contre les cancers, que pendant ce film, moi, on m'a diagnostiqué un cancer, que j'ai été soigné d'un cancer de la thyroïde, j'ai eu une chirurgie, j'ai eu de la radiothérapie, et je peux vous dire que ça m'a pas fait baisser les bras, mais ça m'a donné encore plus envie de me battre sur cette inégalité, cette injustice. Je suis guéri aujourd'hui, j'en ai jamais parlé publiquement, mais je peux vous dire que avec d'autres, on va pas s'arrêter là sur aujourd'hui les politiques pseudo-mafieuses qui nous imposent des pesticides qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, qui contribuent à un empoisonnement en pleine conscience de notre société. Aujourd'hui, on le voit avec la loi Duplomb qui va revenir dans l'actualité. Aujourd'hui, les malades ou les anciens malades, on va se battre pour arrêter le carnage.
Gardez un peu d'énergie, Jean-François Cortier, pour le dernier épisode. Il portera sur les nouveaux défis. Merci et à demain. C'était À Voix Nue avec Jean-François Corti, réalisation Charlotte Roux, prise de son Raymond Alboui, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brault est disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.